repérage du bibliothécaire.
Bonjour Marc, comment ça va avec cette chaleur?
Ben écoute, je viens d'aller faire un petit tour dehors, il fait 29.
Ah mais ça commence.
C'est presque une température cubaine ça, non?
C'est bientôt le feu. Hein, c'est presque une température suédoise, disons.
Ah ouais, c'est juste. J'ai entendu ce matin 30 degrés au cercle polaire.
Mais oui, tu vois.
C'est impressionnant.
Ouais.
Parce qu'au cercle polaire, moi j'ai été, c'est... des petites fleurs de haute montagne, il n'y a plus d'arbres, etc. J'ai de la peine à imaginer ce paysage avec 30 degrés.
Mais enfin... Ouais, t'imagines, tous les sources polaires en train de demander l'asile climatique à ce pays. Mais voilà que, monsieur, votre passeport. Bref.
Et oui. Alors, on a une petite liste là ce mois.
Et oui,
qu'est-ce qu'elle raconte?
Écoute, c'est petit, mais c'est bien riche au niveau des choses intéressantes, des variées d'ailleurs. Et par rapport à ce qui a été lu, c'est moins-ci, enfin qu'en tout cas qui est disponible pour nos auditeurs et nos auditrices. Et il y a, bien évidemment, avant de passer un peu au détail, et il y a dans les polars, il y a toute une série des grosses pointures, on va dire, du polar, y compris francophone, polar et annexe. Notamment, il y a les Granger, on sait que Christophe Granger est très aimé d'un certain nombre de nos auditeurs. Et donc, son dernier livre, La Terre des Morts, est disponible, 36 960. Et il y a aussi le dernier Musso, donc Guillaume Musso, qui est très apprécié par une grande partie de la population de nos auditeurs, et pas seulement. Il y a La Jeune Fille et la Nuit, elle est 36 974, qui est disponible. Donc, parmi tous ces livres de suspense, polar, etc. Et il y a aussi un auteur sud-africain qui a écrit une trilogie qui s'appelle Vengeance, dont le deuxième volume vient de paraître chez nous, à la BSR, et qui s'appelle Killer Country, et un très bon livre sur la situation en Afrique du Sud, avec les 36 926. Ça, c'est pour les polars, les livres de suspense, bon, c'est un peu ce genre qu'on sait bien, c'est bien apprécié, mais dans les livres qui ont été lus plutôt dans le genre historique, il y a un roman qui nous concerne, qui concerne la Suisse, et puis toi, d'une certaine manière aussi, puisque c'est un livre qui s'appelle « Un aller simple pour Nova Fribourgo ».« Un aller simple pour Nova Fribourgo », et qu'est-ce qu'il raconte? Alors, c'est un roman historique, mais très, très documenté, bien, bien fondamenté, bien basé sur des recherches et des documents. Et ce livre raconte, en fait, et des événements que tu connais certainement, comme beaucoup des Suisses, c'est qu'il y a eu évidemment une grande émigration. La Suisse a été un pays d'émigration, n'est-ce pas?
Et surtout au 19e.
Hein. Exactement. Oui. Et puis, en 1819, il y a 2000 Suisses, et surtout du canton de Fribourg, mais aussi des Jurassiens, des Valaisans, des Vaudois, voire même des Genevois, et même des Neuchâtelois, qui partent, parfois avec femmes et enfants, et vont partir au Brésil parce que... Alors, il faut savoir que quelques années auparavant, il y a une grande vague de froid. On ne s'imagine pas avec ce qui se passe justement en Suède et compagnie. Mais, et donc, ça a été, les campagnes étaient complètement abîmées. Il n'y avait rien à manger. Et puis, les rois du Portugal, très généreux, enfin, entre guillemets, offrent une région... Évidemment, tu sais que la terre Nullus, ça n'existait pas. Donc, au Brésil, il y avait des Indiens, de ce qu'on appelle les Indiens, donc des peuples autochtones. Mmh. Mais évidemment, les rois de Portugal voulaient faire un peu le nettoyage de tout ça et implanter des Européens pour favoriser la colonisation. Donc, les Suisses, bons travailleurs, tu vois, ils les offrent toute une région qui va devenir la Nova Fribourg. Mais évidemment, une chose, c'est qu'on te l'offre, et une autre, c'est d'y arriver. Donc, en 1819, tous ces Suisses, qui étaient, bien entendu, surtout des pauvres, ils vendent tout ce qu'ils avaient, la maison, tout ce qu'ils avaient, et ils partent avec femme et enfants, déjà une longue traversée pour arriver à la mer du Nord. Ensuite, ils montent dans des bateaux, dans des conditions assez terribles, parce qu'on parle de migration maintenant, des gens qui viennent vers l'Europe, mais les gens qui sont partis de l'Europe, c'était pas triste non plus. Donc il y a des maladies, je ne veux pas tout raconter. Et 25% de tous ces petits Suisses périssent en voyage. Donc, il y a 700% qui arrivent enfin au Brésil. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, évidemment, c'est pas non plus gagné. Donc il faut s'accrocher. Et malgré tout, ils construisent Nova Friburgo, qui existe maintenant. C'est une ville qui a une étendue de 933 km². Donc c'est plus petit que les cantons de Fribourg, mais bien plus grande que la ville de Fribourg. Mmh. Et donc, il y a une population là-bas qui sont en grande partie des descendants de ces colons, dont l'auteur du livre, Henrique Bon, qui lui-même est un des descendants de ces gens qui sont partis de Fribourg au XIXe siècle, qui est l'auteur du livre. Voilà. Alors, je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs et nos auditrices. C'est un roman, donc il y a toute une trame des romans, mais en même temps, avec une très bonne base historique. Alors, c'est le numéro 36957.
Magnifique.
Voilà, donc
magnifique.
Ça, alors, ça peut être intéressant. Et par rapport aux livres qui ont été lus aussi, il y a un autre qui a aussi un contenu en partie historique, mais en l'occurrence, là, il s'agit des États-Unis. Et c'est un livre d'une auteure américaine qui s'appelle Liz Wingate. Et les livres se nomment « Les enfants du fleuve ». Et avec le numéro 36978, on répétera après. Et c'est basé sur des faits réels. Pourquoi ? Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, dans la première partie du XXe siècle, jusqu'en 1950, l'histoire elle-même, avant de dire ce qui était légal, on est en 1939. Il y a des enfants pauvres, bien sûr, qui habitent dans une sorte de péniches ou des embarcations de fortune, mais qui leur servent des maisons sur les rives du Mississippi. Et les parents partent bosser, gagner un peu d'argent, ils sont pas là. Et tous les enfants, dans la nuit, il y a une rafle et ils sont vendus à un orphelinat. Alors, comme je disais, jusqu'aux années 50, il y avait une société qui s'appelait un nom très idyllique, comme ça s'appelle la Société des foyers d'accueil du Tennessee. Et en fait, le but de cette société, c'était de vendre des enfants pauvres aux riches qui n'avaient pas d'enfants. Et pour cela, ils faisaient même des razzias, et ils ramassaient des enfants pauvres comme ça et ils les vendaient. Et ça existait vraiment jusqu'en 1950. Et ça n'a jamais été poursuivi. Et donc, c'est l'histoire d'une famille, d'un groupe d'enfants, tous les enfants d'une petite famille qui sont élevés, c'est leur vie dans cet orphelinat et dans tout ce qui s'ensuit. Et en même temps, à l'époque contemporaine, une fille qui est issue, en principe, d'une bonne famille, d'une bonne société, qui va visiter pour un peu des raisons électorales, parce qu'elle a des visées politiques aussi, les maisons de retraite, et il rencontre une vieille dame, et là, les deux histoires s'enchaînent. Et puis, je ne veux pas dire plus, mais c'est un livre assez fort. Et surtout quand on sait que ce qu'on lit là est vrai. Donc, c'est le 36978, Les enfants du fleuve. Voilà. Pour ce qui est des lectures, et puis bon, évidemment, il y a un livre dont j'avais parlé qui est pour continuer un peu dans l'horreur, mais là, du point de vue de ceux qui l'ont commis, c'est les journaux de Spandau d'Albert Speer, qu'on avait dit qu'il était en lecture, qui raconte tous les 20 ans des prisons de ces dignitaires nazis. Très intéressant comme lecture et comme moyen de voir son point de vue sur tous ces événements. Et donc, avec le numéro 36938 qui est maintenant disponible par rapport au document, en l'occurrence sur l'histoire européenne du XXe siècle. Et pour finir, Évidemment, la sélection est vaste. Il y a des romans d'amour, des romans historiques, il y a même un roman érotique assez relevé et d'autres. Mais par rapport à la proposition de ce mois-ci, et il faut savoir qu'on a aussi des DVD, audio décrit, on n'a pas tout le temps. Mais en l'occurrence, ce mois, on propose, en plus des livres, toute une série. Donc, c'est une série suisse qui s'appelle Bye Bye la Suisse. C'est la 7e saison. Et des gens qui vont, des Suisses, il y a un lien quand même avec ce qu'on parlait de Nova Friburgo, hein, maintenant c'est un peu différent parce que ça part d'une manière un petit peu plus
volontaire.
Exactement. Et donc, c'est Babel à la Suisse, donc c'est la 7e saison, donc il y a des gens qui partent au Canada, d'autres aux Canaries, d'autres en Asie, bon là, tu vois, ça se diversifie. Et donc, c'est un peu la vie de ces gens, et comment ils essayent de se reconstruire, de refaire leur vie là-bas, les avantages, les problèmes. Et donc, voilà, on a 6 épisodes qui sont audio décrits. Donc, Bye Bye la Suisse, avec le numéro de 48085 à 48090. Voilà comme échantillon de ce qui a été dit.
Et pour ce qui est en cours, qu'est-ce qui se passe?
Ah, on a des grandes richesses en lecture et en production. Donc, dans les deux, en production, ça veut dire que ce sera disponible très bientôt. Et en lecture, bon, que ça sera disponible dès que les lecteurs, les lectrices seront finis. Mais je vais parler d'un livre. Et on essaie d'avoir une certaine continuité. Et puis, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces Suisses qui sont partis vers le Brésil, il faut savoir que maintenant, ça s'inverse un peu. Et donc, il y a un livre qui est en lecture qui a fait du bruit. Il a été écrit par un ancien journaliste spécialiste de l'Afrique, qui est maintenant professeur, qui est aussi un chercheur et en démographie, qui est professeur aux États-Unis. Il est franco-américain, donc il a les deux origines. Et le livre, il s'appelle Stephen Smith. Et le livre s'appelle « La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent ». Alors le livre, il se base sur la démographie, c'est assez bien documenté. Alors les titres sont un peu alarmants, la réalité aussi d'ailleurs, mais ils sont un peu plus sobres que les livres, que les titres. Et alors il part du constat. L'Europe, enfin ce qu'on appelle l'Union européenne, la Suisse, de toute façon, ça ne fait pas grand poil là-dedans, et il a 500 millions d'habitants à peu près. L'Afrique en vend un milliard, hein, 1 250 000 000.
Donc le double.
Et 40% au moins de 15 ans. Alors qu'en Europe, voilà, tu vois comment ça vieillit légèrement, voire plus. Et donc, en 2050, hein, ça veut dire qu'il y aura 550 millions d'Européens et 2,5 milliards d'Africains. Dont, d'après les statistiques, un sondage qui a été fait en 2016, 42% des jeunes de 15 à 25 ans souhaitent émigrer. Et il y a de l'autre côté les conditions là-bas. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas seulement une histoire des qui veulent partir juste parce que ils aiment bien faire du tourisme ou parce qu'ils viennent se baigner dans les plages chaudoises maintenant qu'il fait chaud, mais la question c'est que il faut des bouchers. Et puis ce qui est paradoxal et ce que le livre explique très bien, c'est que c'est pas les plus pauvres qui s'en vont, c'est-à-dire que les conditions économiques, du moins qu'elles augmentent un petit peu mais pas assez pour qu'ils vivent bien, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir un téléphone portable avec Internet plus ou moins, dans certains endroits, ils voient ce qui se passe en Europe, enfin, le meilleur de ce que la pub, le monde de l'Europe, et ils arrivent petit à petit à se procurer, pas de l'argent pour vivre bien, mais pour payer un passeur. Et c'est à partir du moment où ils sortent de la misère absolue et qu'ils commencent à vouloir migrer. Et plus, donc, paradoxalement, ça crée une situation étrange qui fait que, parfois, l'aide au développement, les aides à développer, mais pas assez, et du coup, ça stimule encore plus le départ. Donc, c'est une situation assez complexe, et avec aussi des problèmes internes, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus en plus de jeunes, mais les anciens, ils ont ce pouvoir des anciens en Afrique, etc., dont les jeunes se sentent un peu prisonniers. Donc, ils veulent aussi pousser, sortir, et puis ils en vont. Il y a toute la problématique de ceux qui arrivent, mais qui n'osent pas dire que ça va pas de manière si miraculeuse. Donc, ils continuent à créer des mirages pour ceux qui partent. Et donc, il y a tout un phénomène qui est extrêmement complexe, qui fait que il y a une migration qui continue, qui continuera. Et les journalistes qui n'est pas Parce qu'évidemment, ça a été instrumentalisé, son livre qui est récent, mais par les uns et les autres. Mais alors, il dit, voilà, l'égoïsme nationaliste, donc c'est serre fermé, faire un mur, comme veut faire Trump, autour de l'Europe, ça, c'est irréaliste. L'angélisme de dire que, oui, alors, allez, tout le monde, venez. Pour lui, c'est aussi trop angélique, trop loin de ce qui pourrait se passer si c'est arrivé. Donc, il propose des pistes, des réflexions, des solutions partielles, ou en tout cas des points de vue pour comprendre et pour essayer de faire quelque chose pour équilibrer la situation des uns et des autres. Mais je ne vais pas tout raconter parce que c'est bien de lire le livre, de l'écouter, qui sera prêt, je pense, d'ici peu de temps. Donc, c'est un livre très intéressant, très bien documenté, et évidemment, qui peut se prêter à polémique, mais en tout cas, qui a été salué, respecté par les uns et les autres. Donc, « La jeune Afrique en route pour le vieux continent » de Stephen Smith. Ça, c'est parmi les choses qui sont en lecture.
Et pour le futur?
Alors, pour le futur, bon, il y a, comme toujours, sur la table... du bibliothécaire, des petites choses qui poussent comme ça, des livres qui poussent. Et donc, parmi les livres qui poussent sur ma table, il y en a deux qui sont très différents et qui sont tous les deux, je pense, passionnants chacun à sa manière. Il y en a un qui, je l'ai choisi pour en parler, parce que c'est policier, bien sûr, mais aussi parce que ça se déroule en Groenland. Étant donné la température qu'il fait dans le coin, je me dirais que ça serait bien d'échanger un petit peu, d'avoir un peu de fraîcheur, au moins virtuelle. Donc, c'est un polar qui se déroule en Groenland, et écrit par un auteur dont on ne sait pas qui c'est, parce que c'est un pseudonyme, il s'appelle Mo Malleux, un pseudonyme de là-bas. Mais l'auteur, si je ne m'abuse, est d'origine française. Par contre, le livre s'appelle Koanak. Koanak, c'est le nom du détective. Parce que il y a un détective qui s'appelle Koanak Adrinsen qui a été adopté aussi en tant que petit. C'est un autochtone, donc c'est tout ça de l'adoption. Et c'est un petit Inuit qui a été adopté et qui donc au Danemark. Et puis, mais qui est devenu un grand détective. Et il se trouve que en Groenland, la police est un peu affolée parce qu'il y a un crime qui s'est commis. Il y a 4 ouvriers de plateformes pétrolières qui ont été complètement démembrés, déchiquetés. On pense que c'est des ours, mais les ours n'arrivent pas à crocheter des portes, etc. Donc ça devient un peu compliqué. Et ils sont perdus, les locaux, et ils appellent. Et donc, ils doivent rentrer au pays pour essayer de démêler le problème. Et là-bas, il y a toute la guerre des compagnies pétrolières, les chasseurs de phoques, les traditions, les complots, la magie, l'effroi. Et tout cela se mêle pour faire un polar que je pense va intéresser, va dépayser, puisque ça se déroule en Groenland.
Ouais, donc, pour une fois, hein, c'est toujours en Islande, dans Scandinavie.
Voilà, donc ça monte un peu, ça va là-bas, de l'autre côté, et puis je pense que ça apporte aussi des éléments.
Un peu une idée de ce que c'est, quoi,
voilà,
le Groenland.
Exactement. Ouais, ouais. Donc voilà le poil du Groenland. Et puis, après ça, on descend un peu. Bon, on est toujours par là-bas, près de l'Amérique, mais là, on va descendre un petit peu. Et on va même aller presque jusqu'à la mer des Caraïbes, mais presque non, la mer des Caraïbes, et on va aller en Haïti. Et là, le deuxième livre, c'est un livre d'un écrivain qui s'appelle Mitcha Berlinski, mais qui est un écrivain américain. Et le livre s'appelle, ou a été traduit, parce que le titre original, c'est Peacekeeping, de la paix, mais a été traduit de manière généreusement inventive, mais basée sur un mot qui se dit dans le livre. Le titre, c'est « Dieu ne tue personne en Haïti ». Alors ça, c'est un proverbe haïtien, un créole, je ne dirais pas un créole, mais « Dieu ne tue personne en Haïti ». Pourquoi ? Parce que les Haïtiens disent qu'en fait, quand quelqu'un meurt en Haïti, ce n'est pas des causes naturelles. il y a toujours un truc. Donc, c'est la main de l'homme qui est derrière. Donc, les livres, en fait, parlent de tous ces milieux, d'un côté, ces expats, ces gens qui vivent de l'ONU, ces organisations qui viennent aider, soi-disant, les Haïtiens, et de l'autre côté, le monde haïtien en lui-même, c'est-à-dire toute cette pauvreté extrême, et en même temps la beauté, l'exubérance du pays, les traditions, les vaudous, les fruits, et puis aussi cette classe des riches haïtiens, les politiciens corrompus, etc. Et justement, alors il y a différentes lignes dans le livre. Il y a un couple, un Américain, l'Américain classique, un ex-flic là, qui va essayer d'apprendre aux gens du coin comment gérer la chose. Et sa femme, il y a aussi un avocat haïtien, et puis un sénateur Bayard, qui est lui, c'est celui à la main à mise un peu sur la situation. Et puis justement, cet avocat va essayer de s'opposer à lui dans les prochaines élections. Et évidemment, ça crée un certain nombre de petites tensions en général, et en Haïti en particulier, avec tous ces mondes entre réalité, danger, sorcellerie, etc. Toutes ces choses-là qui se passent dans les pays, les fraudes, la corruption. Et en même temps, il y a une histoire d'amour qui passe derrière. Et puis, il y a les narrateurs, un personnage un peu désabusé, fin, observateur, qui raconte tout cela. Le livre est très bien écrit. Et pour une fois, Michel Berlinski, tout Américain qu'il est, il a su avoir une grande empathie pour la situation en Haïti. Donc c'est un livre qui attend tous les deux sur ma table. Mais comme je pense que c'est un livre intéressant, et le lecteur et l'électrice feraient bien de se dépêcher, parce que ça risque de partir vite en lecture.
Magnifique. Merci beaucoup.
Mais merci à toi.
Et puis, à la fin du mois d'août.
À bientôt, oui. Espérons être plus frais.
Ouais.